On vous a souvent parlé des recherches qui ont été entreprises il y a un moment déjà pour tenter de trouver un ou des vaccins. Plus de 120, 130 laboratoires cherchent désespérément à mettre au point le tout premier vaccin efficace contre un coronavirus. On a déjà des vaccins contre l'influenza qui fonctionnent, oui, certaines années plus efficaces que d'autres, dépendant de la souche de l'influenza qui est en vigueur à ce moment-là pendant la saison. Mais on cherche partout et les Chinois sont les premiers là à annoncer qu'ils ont commencé à vacciner des militaires à partir d'un vaccin conçu de façon traditionnelle. Mais là, nous sommes à la fine pointe de la technologie quand nous parlons des nano-vaccins. Il y a un an, les chercheurs israéliens à l'Université de Tel Aviv ont mis au point un nano-vaccin contre le mélanome. Vous savez, cette forme très dangereuse du cancer de la peau. Ben voilà qu'on apprend qu'un nano-vaccin québécois est en préparation. Denis Archambault, il est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Archambault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Houde. Heureux d'être là.
Ben oui, je suis content de vous parler, Monsieur Archambault, parce qu'on va d'abord y aller là très, très, très simplement pour tenter de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un nano-vaccin?
Alors, le mot le dit, nano, ça fait appel à la nanotechnologie. Alors, c'est un ordre de grandeur, de l'ordre du nanomètre. Alors, tout le monde connaît le mètre, le centimètre, le millimètre. Alors, le nanomètre, c'est un million de fois plus petit que le millimètre. Alors, donc, c'est ça va être des particules de l'ordre du nanomètre. Habituellement, quand on cible le système immunitaire, c'est entre 20 et 160 nanomètres. Alors, le système immunitaire aime beaucoup la taille de ces particules pour initier la réponse.
Donc, vous fabriquez une façon très originale de lutter, comme on l'a dit, il n'y a toujours pas de vaccin efficace qui existe pour les coronavirus, alors que traditionnellement, donc, M. Archambault, on fabrique des vaccins. Je tentais de simplifier, vous allez peut-être me corriger. Je disais, on part de virus déjà existants, on mélange tout ça, ce qu'on appelle des adénovirus, puis on fabrique un espèce de vaccin à partir donc de ces particules sur des virus qui existent déjà. Quelle est la différence avec un nano-vaccin?
Ben, nous, c'est une stratégie complètement différente, technologie complètement différente. Il n'y a pas de particules virales dans la formulation. Alors, c'est totalement fabriqué en laboratoire et en bout de ligne, on aura ces particules-là, comme je vous ai dit, de l'ordre du nanomètre. Alors, les plateformes, on appelle ça des plateformes, finalement, les technologies greffées à ça, ça peut résulter en l'obtention, quand on parle de vaccins, en deux formes qu'on appelle des anneaux ou encore des filaments. Alors, si vous pensez à un anneau, alors vous auriez un anneau comme la forme d'un virus à laquelle on peut greffer à la surface le matériel vaccinal. Et quand on parle de filament, ben c'est le long du filament. Pensez à un arbre de Noël, par exemple, un sapin. Le tronc serait le squelette, la nanoparticule comme telle et les branches serait le matériel vaccinal. Alors, il y a rien de viral de particules virales dans notre système. Tout ce qu'on a d'origine virale, c'est le matériel vaccinal qu'on va finalement greffer à notre particule.
C'est comme si vous aviez comme squelette, comme tronc, comme vous l'avez dit, vous aviez un petit robot auquel vous allez greffer des particules qui vont faire réagir le corps.
Exactement. Le système immunitaire, en principe, reconnaît ce qui a été greffé à la particule et va initier une réponse immunitaire spécifiquement contre le matériel vaccinal. Bon, vous avez parlé, j'ai entendu, il y a peut-être une vingtaine de minutes, de la fameuse protéine S ou la spicule. Alors, c'est une cible de choix que la plupart des gens qui travaillent à l'élaboration de ces vaccins-là vont cibler comme matériel vaccinal. Alors, nous, on va tout simplement greffer une partie de cette spicule-là à nos particules.
Et quand on regarde, évidemment, on est en image, on l'a tellement dans la tête, cette image. Quand on se représente le coronavirus, SARS-2, COVID-2, si vous préférez, on voit une boule, puis on voit des spicules, c'est-à-dire des pics. Moi, j'appelais ça des morceaux de popcorn autour, là, qui sont greffés autour. Oui, ouais. Ben non, mais ça ressemble à ça un peu.
Oui, si vous voulez, ouais.
Et c'est la clé, n'est-ce pas, M. Archambault, dans la transmission, là, ce qui fait qu'on finit avec la COVID-19?
Bien, c'est parce que cette fameuse protéine S-là, elle a une double fonction. Elle doit d'abord reconnaître le récepteur. Pour infecter une cellule, il faut que le virus puisse s'accrocher, si vous voulez, à la cellule. Alors, c'est la spicule qui médit ça. Elle reconnaît un récepteur spécifique, le fameux récepteur ACE2 que vous avez peut-être entendu parler. Mm-hmm. Et en plus, une partie de la protéine S, suite à l'adhésion, suite à la reconnaissance de ce récepteur-là, va pouvoir avoir une autre fonction de faire entrer à ce moment-là le virus dans la cellule pour initier le cycle de multiplication du virus qui va faire, d'autres bébés.
Ce que vous comptez faire, c'est de développer, je dirais mécaniquement, la création d'un nanovaccin qui, lui, va ressembler à ces fameuses protéines, ces fameux pics-là, mais dans le but d'activer notre système de défense.
Exactement. On part pas de zéro. Ça fait quand même 5 ans qu'on travaille sur le développement de ces systèmes-là à base de nanotechnologie. Alors, on avait et on a encore un projet courant sur le virus d'influenza et on a développé plusieurs stratégies, plusieurs plateformes nano-vaccinales et il y en a deux de ceux-là, une qui est complètement synthétique et l'autre qui est un peu plus biologique. Et dans un modèle de protection, où est-ce qu'on est rendu? On a 100% de protection dans un modèle murin. On part pas de zéro, là.
Non, c'est extrêmement prometteur. Comment allez-vous nous injecter ça, là, si on arrivait à déterminer que ce nanovaccin serait un des tout premiers, en fait, le premier vaccin efficace contre un coronavirus? Est-ce qu'on reçoit ça comme une injection par seringue?
Ben, écoutez, c'est un des avantages, un des gros avantages des nanoparticules, c'est que ça peut être administré selon plusieurs voies, soit la voie par injection, comme vous avez dit, intramusculaire, ou encore la voie intranasale. Alors, quand on pense au coronavirus, dont la porte d'entrée est via les voies respiratoires, alors ça serait naturel de penser d'y aller avec la voie intranasale, qui éventuellement, les particules vont se retrouver un peu plus bas au niveau des poumons pour initier une réponse dite locale. Alors, ça serait en principe la plus efficace. Maintenant, dans nos systèmes avec l'influenza, si je reviens à ça, on a eu 100% de protection et par la voie intranasale et par la voie intramusculaire. Alors, c'est très prometteur, ces avenues-là. Alors, on va transposer plateforme-là dans le contexte du coronavirus.
Monsieur Archambault, si j'ai bien compris, là, dans un nano-vaccin, il n'y a pas de... Tu sais, souvent, quand on parle de faire un vaccin, on injecte un virus, c'est-à-dire on met un virus pour développer des anticorps.
Exact.
Mais dans le nano-vaccin, il n'y a pas ça.
Non, il n'y a pas aucun matériel génétique du virus.
Génétique,
donc,
c'est ça.
Il ne peut pas avoir, finalement, de production de virus, de coronavirus. Ça, c'est hors de question. Alors, les vaccins dont vous parlez, à base de virus, oui. les vaccins, finalement, de première génération qui existent depuis belle lurette, là, comme le vaccin de la rougeole, c'est à base de particules virales complètes du virus de la rougeole qu'on dit atténué. Donc, on va administrer à des individus pour engendrer une réponse immunitaire. Étant donné qu'il est atténué, ben il ne provoquera pas la maladie, mais il va induire une réponse immunitaire. Par opposition au vaccin, au virus inactivé, c'est encore des particules virales entières. On inactive avec un produit chimique et on utilise ça comme matériel vaccinal. Ouais. Alors ça, c'est des vieux vaccins, c'est des vieilles méthodes qui existent encore. Il y a beaucoup de vaccins sur le marché à base de ces premières technologies-là. Maintenant, vous avez mentionné tantôt l'adénovecteur ou l'adénovirus. Je crois que vous avez mentionné ça au début de,
oui,
au début de votre intervention. Alors, on peut dire que c'est des vaccins de deuxième génération, où ce que là, finalement, on se sert de ces vecteurs-là à base d'adénovirus, dans lesquels on va insérer quelque chose de génétique, mettons du coronavirus, et qui va coder et qui va produire à l'intérieur du corps, lorsque après l'administration des adénovecteurs, qui va produire la fameuse protéine S et engendrer la réponse immunitaire.
En terminant, et rapidement, M. Archambault, mettons que ça fonctionne, vous l'avez dit, c'est très prometteur. Comment est-ce qu'on multiplie ça par des millions et centaines de millions de doses? Parce que la méthode traditionnelle de produire un vaccin, c'est très long. Il faut y aller par des œufs qu'on injecte et tout ça. Comment on pourrait multiplier le nombre de doses d'un nano-vaccin?
Ben, c'est une des problématiques qu'on a entendu parler dans les dernières semaines, hein, la fabrication du fameux ou des fameux vaccins. Nul doute qu'il va en avoir plusieurs sur le marché, dont l'efficacité va être variable. Dans la technologie que nous avons, il y en a une qui est synthétique, donc il peut avoir ce qu'on appelle du scale-up, là, vraiment augmenter la capacité de production. Et dans l'autre système, c'est dans des vecteurs, des micro-organismes qu'on va pouvoir fabriquer la base du matériel pour faire la nanoparticule. Donc, il y a moyen, avec des industriels, là, des partenaires industriels qui déjà sont habilités à faire ça, de pouvoir arriver à la production de masse éventuellement de ça. Alors, moi, je voudrais terminer avec ça, que je suis pas seul. Je voudrais vraiment dire que je suis pas seul dans ce projet-là, qui est financé par l'Institut de recherche santé du Canada. Alors, il y a un autre collaborateur à l'Université du Québec à Montréal, le Dr Steve Bourgault, qui a une chaire du Canada en recherche en biochimie. Et nous avons la bonne fortune, si vous voulez, d'avoir deux collaborateurs à Winnipeg. Vous savez, les fameux laboratoires de biosécurité maximale, là, les genres, quand on voit des fois des images là, qui s'habillent comme des astronautes. Là.
Ouais.
Alors, on collabore aussi avec eux. Alors, quand même si on démontre l'immunogénicité, la capacité de faire des anticorps d'abord chez la souris, encore faut-il prouver dans un modèle animal d'infection qu'on peut le faire. Étant donné que c'est coronavirus, mais là, ça prend de la biosécurité, pas maximale, mais pas loin. Là.
Bonne chance à vous et à votre équipe, M. Archambault. On espère des nouvelles intéressantes. Au revoir.
Je vous en prie, au revoir.